Nous sommes mercredi 28 septembre 2016, il est 21h, vous écoutez le Dojo Bar, pas du tout en retard.
Bah.
Moi je me suis pas fait avoir.
Bonsoir. Ça va sinon? Bonsoir à tous, bonsoir Méduse.
Salut, salut Mortal, ça fait longtemps.
Bonsoir Rosgar.
Salut.
Et bonsoir à notre pléthore d'invités, monsieur Antix, l'homme reverso.
Alors, je suis invité ou je suis pilier de barbe?
Tu fais pas chier.
Bon bah, wesh. Voilà.
Yann ou pas, pas pilier de barbe, mais quand même, qui est là.
Salut tout le monde.
Zergy, qui est là aussi.
Salut.
Voilà. Donc tout le monde est là. Cette émission va être placée sous le signe de l'acouphène, parce que là je pense que je vais mourir avant la fin de l'émission. J'ai un écho absolument ignoble dans mon casque, c'est juste horrible. J'espère que je me suis pas chié dans le mixage. Non, je me suis pas chié dans le mixage. Par contre, j'ai pas ouvert le conducteur, vous voyez, donc je sais pas de quoi on va parler. Ça, c'est la magie du direct.
On va parler de la NX et de Metroid.
Voilà, donc ça c'est un bon résumé.
Voilà, on a fini.
On fera un tour de table de l'actu à un moment, mais on va commencer tout de suite par... Yanoupa qui a 2-3 petites news indées à nous proposer, notamment des questions de promo. Yanoupa, c'est à toi.
Cette semaine, il y a SteamWorld Est qui sort demain, donc en digital et en physique. Et pour l'occasion, en fait, en digital, il y a une promo pendant une semaine, je crois, de sortie, donc qui sera à 15€ au lieu de 20€. Et le petit plus, c'est si vous avez SteamWorld Dig, ça sera 1€ moins cher, ça sera 14€, ça fait 6€ d'économie, c'est relativement hein. Donc voilà.
Voilà, pour le... Merci Yanoupa.
Est-ce que quelqu'un avait déjà chopé sur 3DS par hasard?
Que sur PC.
Et bien joué.
Au Dig ou Waste?
Non, Waste.
Ah non, le Waste, pas encore.
Ouais.
Mais bientôt.
Il a l'air pas mal du tout.
Ouais, il a l'air très bon. Il y a des bonnes critiques et tout.
Bref, le tour de table de l'actu, nous allons avoir droit. Alors, le tour de table de l'actu va être extrêmement court, puisqu'il y a Méduse qui a une actu, et puis c'est à peu près tout. Et le cochon d'Inde aussi.
Moi j'ai une actu aussi. Hein.
On s'en fout.
Vas-y, commence.
Bon, alors, commence. Antix, commence, vas-y.
Alors moi c'est une actu qui est pas complètement récente, je crois que ça date d'il y a quelques semaines déjà. C'est des mecs un peu malades dans leur tête qui ont décidé de faire un ROM hack de Mario Kart 64. Et notamment tout le mode multijoueur. Et donc pour ceux qui ont joué au mode multijoueur de Mario Kart 64, vous savez que quand on joue à 3 et plus, il n'y a pas de musique. En sorte qu'il puisse y avoir de la musique. Ils ont rajouté des options type la résolution de l'écran, c'est 4 tiers, 16 neuvième. On peut même choisir le nombre de FPS. Et quelques détails qui avaient été enlevés dans les modes justement multijoueurs avec un peu de monde, comme le bateau de la jungle des cas, on peut les activer dans ce ROM hack.
Ah oui.
Mais du coup, il tourne que sur émulateur ou il tourne sur les vraies machines?
Je pense qu'il ne tourne que sur émulateur.
En tout cas, c'est sympa de voir des gens qui réintègrent des pans entiers de niveau simplement en profitant de la puissance d'un émulateur.
Ouais, je crois qu'en plus ils en ont profité pour acheter 2-3 autres options au niveau de la sélection des maps. Enfin, j'ai pas le détail en tête. Je crois qu'on peut même choisir chacun peut choisir à son tour, peut-être des choses comme ça. Et on peut même, alors au niveau des personnages, on peut même faire en sorte que tous les personnages aient les mêmes stats que Yoshi, qui était le meilleur personnage du jeu.
Donc comme ça tout le monde peut tricher.
Voilà.
C'est vraiment sympa en tout
et
cas.
Et sachant qu'il compte l'améliorer au fur et à mesure, à rajouter des petites des options. Voilà.
D'accord, merci, je savais pas, j'avais pas vu ce truc-là passer. Méduse, tu avais des nouvelles de la gerbe virtuelle de Sony.
Exactement, et tu présentes ça très bien, puisque j'ai la gerbe virtuelle de Sony. Je fais seulement la gerbe virtuelle de tous les casques de VR, j'ai l'impression. Donc je suis allé essayer le PSVR hier. Ouais, hier, je crois. Et je suis allé avec ma copine. Et du coup, moi, j'ai testé Resident Evil. Et elle a testé le machin d'Ubisoft. On survole Paris, là, Eagle Flight. Je trouvais la bête assez intéressante. Parce que ça répond plutôt bien. pour donner un ordre de comparaison, ça répond à peu près aussi bien que l'écran du gamepad quand il doit afficher ce que la Wii U lui envoie ou bien que le Wii Motion Plus. Le jeu d'aigle avait l'air d'avoir assez bon. Madame a dit que niveau sensation c'était assez cool et que le rendu était pas mal. Elle n'a pas eu du tout de motion sickness. Pour quelqu'un qui a le mal de transport, c'est déjà pas mal. Alors par contre, moi qui avais déjà essayé de la VR, j'avais déjà essayé l'Oculus, le truc où avec le premier kit, j'avais été genre malade pendant 3 heures en essayant 10 minutes parce que motion sickness à fond. Et là, j'ai pas eu ça, mais j'ai quand même eu du motion sickness avec le PSVR. Mais un motion sickness bien moins important, pas de l'ordre du gerbatif, mais bon, pour moi c'est clairement le genre d'exercice qui est pas... Ben voilà, je crois que j'ai l'impression que je dois oublier ce genre d'appareil, à mon grand regret, parce que j'aime bien tout ce qui est immersif. Et par contre, autant sur l'Oculus on voyait nettement la grille des pixels, ici on la voit beaucoup moins, mais on la voit quand même. Parce que ça reste du, si je dis pas de bêtises, c'est du Full HD divisé en deux pour chaque œil. Et du coup, j'ai encore l'impression que c'est encore un peu insuffisant comme résolution. Mais ça rend quand même pas mal. Alors le Resident Evil, par contre, autant le tout ce qui est shaders, FX et tout ça, ça déboîte à fond. Autant avec la résolution divisée par 12 et les modèles super grossiers et tout ça, c'est quand même... un petit peu au bord du pauvre. Et alors le rythme est super, super lent et chiant en fait. Et voilà. Je sais pas, sinon le casque est léger, il est confortable. Par contre j'ai un gros pif, du coup j'ai l'impression que le casque remontait un petit peu légèrement. légèrement à chaque fois. Non mais c'est super chiant parce que quand ce Resident Evil...
C'est un vrai problème pour les mecs qui ont des gros pifs.
Absolument. Ce Resident Evil, t'as pas de texte en jeu. Mais par contre, parfois, quand tu prends un objet, t'as du texte qui apparaît, et là, du coup, je devais plisser les yeux, sinon il était flou, quoi, tu vois.
Putain, c'est moche, ça.
Oui, et ou alors, il fallait que... Ben, ou alors, il faut que quelqu'un me maintienne bien le casque fixement sur le nez, quoi, tu vois, genre méga serré. Mais par défaut, il n'y avait pas moyen de le méga serrer de lui-même, quoi, tu vois. Même en faisant, enfin, je sais pas.
Il n'y a pas un strap qui permettait de le fixer. Bah,
en fait, t'as pas un strap, c'est un espèce de truc qui, tu vois, vu qu'il se pose sur ta tête, le réglage se fait d'avant en arrière en fonction de la profondeur de ta tête, quoi. Tu vois, ça vient se clipser, s'agrandir et se rétrécir comme ça. Mais c'est pas élastique, tu peux pas forcer un petit peu le truc, quoi. Du coup, ça, c'est un peu méga chiant. Alors, si t'as pas, enfin, dans mon cas, du moins, si t'as pas de texte à l'écran, ça va. Si t'as du texte à l'écran, c'est juste mort, quoi. Et voilà.
Donc, globalement, ouais. Ton ressenti, c'est que c'est pas si dégueulasse que ça.
Non, franchement, alors, non, parce que si ça avait été aussi dégueulasse que l'Oculus, j'aurais jamais pu tenir le quart d'heure que j'ai essayé, quoi. Tu vois. Mais dès le début, par contre, j'ai ressenti un petit peu le... Je sais pas comment exprimer ça, parce que c'est pas des sensations de vomi ou quoi, mais c'est quand même des espèces de se sentir mal, quoi, tu vois.
Ouais, non, mais l'oreille interne est pas d'accord avec ce que tes yeux voient, quoi, tout bêtement.
Ouais, voilà. Et comme je suis un connard exigeant, je crois qu'il faut vraiment que le truc soit ultra au top pour que mon oreille interne accepte ce genre de machin. Je sais pas trop. Peut-être que si la technologie évolue, ça pourrait être intéressant pour moi. J'en sais trop rien. En tout cas, Médusette, elle a essayé le Batman et le. Enfin, le Batman, c'est juste une démo en fait où tu es dans la peau de Batman et tu ranges ses armes au niveau de sa taille, ce genre de trucs-là, donc il n'y a pas grand-chose à faire.
Ah, tu mais fais elle... pas des trucs de Batman, genre tabasser des gens ?
Non, mais elle a pas fait jusqu'au bout en même temps. Mais par contre, le jeu d'aigle, elle l'a bien. Enfin, je veux dire, moi je l'observais jouer pendant que. Et je voyais ce qui se passait à l'écran parce qu'ils avaient dupliqué la sortie. Et ça répondait quand même vraiment bien. Ça avait l'air assez cool. Alors, ce qui est assez intéressant avec le jeu d'aigle, c'est qu'en fait, tu peux presque jouer sans pad puisque toute la direction se fait. Enfin, l'aigle va là où tu regardes en fait. Donc, si tu lèves la tête, l'aigle monte. Si tu baisses la tête, il descend. Si tu inclines la tête à gauche, il va à gauche, etc. Et les gâchettes te servent juste à accélérer ou freiner. En fait. Donc, tu peux quasi jouer rien qu'avec la tête, en bougeant la tête. Ça, c'est assez intéressant comme concept, je trouve. Voili, voilou.
Il y a Cédric Florquin qui nous demande sur Twitter s'il est un peu trop tôt technologiquement parlant pour la VR, au final.
Mais, pour la VR, en général, je sais pas. En tout cas, là, Enfin, je me souviens plus quand Sony a annoncé la PS4 Pro, si c'est censé...
La semaine dernière, il y a au début du mois.
Ouais, non, mais pour quand
ouais, mais non, mais...
Pour novembre, hein, ça sortira à peu près en même temps.
Déjà,
hein.
Ouais, voilà, mais je sais pas si ça va avoir un impact sur les jeux VR ou pas.
Ils en ont pas parlé, c'est beaucoup qu'ils allaient insister là-dessus pour la PS4 Pro et la VR, parce que c'était quand même plus puissant.
Ouais.
Mais non.
Parce que d'une manière générale, vu que ça va influer les... Ça va influer le framerate et la résolution de tous les jeux. Donc on peut imaginer que ça ait un impact sur la VR, au moins sur le framerate. Après, sur la résolution, il y aura toujours la limitation du casque, qui de toute façon ne pourra pas faire de miracle. Quoi. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait une V2 du casque qui puisse avoir une meilleure résolution, que la VR tienne ça bien. Quoi.
En tout cas, surtout le nombre de FPS, on a un minimum qui est, je crois, 90, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, 45, pareil. Quoi.
Et du coup, ils ont dû sacrifier pas mal l'aspect visuel.
Ah, mais ça, je peux te dire, je veux dire, Resident Evil est très propre, mais le problème, c'est que tu vois clairement l'aliasing, genre à fond, quoi. L'aliasing et les modèles qui sont low poly.
Ouais, mais c'est pour ça que c'est paraît bizarre qu'ils n'aient pas insisté sur...
Par contre, les shaders et les textures sont au top, ça, clairement. Mais du coup, tu as les shaders et les textures, mais en pas beaucoup de pixels de résolution, quoi.
Ouais, du coup, je comprends qu'ils ont fait insister là-dessus, en fait, parce que vous revenez à dire, en fait, sur PS4, la VR, ce sera tout pourri. J'ai insisté pour le PS Pro. Hein.
Oui, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas encore ça, mais après, faut tester, quoi. Sinon, il y avait d'autres jeux en test, mais on pouvait juste tester un jeu pendant 12 minutes. Et vu que j'étais un petit peu malade, on m'a proposé de tester d'autres trucs, mais j'ai pas insisté.
Alors, voilà. Si on voit l'aliasing, c'est normal, hein, c'est la patte Sony.
c'est le style graphique de Sony.
C'est le style. Ouais,
bref, nous avons fini ce tour de table de l'actualité, parce que malheureusement, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité. Donc, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Bayonetta 2. On va écouter
un mauvais jeu.
The Legend of Aizir.
Est-ce qu'on peut buter Drosgar?
Tu as le droit de lui mettre deux tartes.
Attends.
On va donc écouter The Legend of Aizir, qui est un des premiers morceaux qu'on entend dans Bayonetta 2, et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes et on fera un super quiz crédible pas crédible sur la NX. Voilà, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Je suis désolé, j'ai un énorme problème technique, je pense que ça s'entendra pas, a priori ça s'entend pas parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et ça a l'air de l'air, mais moi par contre ça me déboîte les oreilles, vous pouvez pas imaginer. Donc... Mais ta gueule toi.
C'est le problème technique.
C'est le problème technique, mais je pense qu'on va le rebaptiser problème technique. Ça va être... voilà. Un peu relou. Donc on va faire le vrai faux. On a compilé grâce à Kiowan.
Faux.
Merci au passage.
Ah non merde.
Très bien. On a compilé grâce à Kiowan, que je remercie au passage, les quelques rumeurs qu'on a sur la NX. Alors c'est pas complet, il n'y a pas forcément tout. J'ai essayé de recompiler ça, il m'a aidé à en remettre deux ou trois. Donc je sais pas si j'ai tout, mais en tout cas j'en ai pas mal. Et on va jouer au vrai-faux, c'est-à-dire vous allez dire est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas crédible, et éventuellement pourquoi. Voilà. Presque un quiz. Donc, la première rumeur, c'est le support cartouche. Crédible ou pas crédible?
Crédible si c'est une console portable.
Oui, crédible. Même si c'est de salon.
Ouais, vous pensez tous que c'est crédible, quoi, y a pas de souci. Alors, quand on dit cartouche, hein, on sous-entend bien, hein, c'est des cartes type carte SD, carte 3DS. Hein, ça
oui, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Hein.
Ouais, ouais.
C'est pas les gros blocs de plastique d'avant. Hein.
Même plus gros, ce serait pas gênant au final. Enfin, si elle est un peu hybride, du moment que c'est pas la taille non plus d'une cartouche de Game Boy, genre une Game Boy Advance par exemple, ça pourrait être pas mal.
Bah, le problème, c'est que je pense que ça coûterait plus cher qu'une carte SD à produire, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, une carte SD, ça coûte quasiment plus rien à produire. Hein. T'es vraiment... Une carte SD de 64Go, le coût de revient, il est juste ridicule.
Après, c'est pas exactement des cartes SD, hein, les cartes de la 3DS, mais...
C'est la même techno derrière.
Pas très proche, oui.
Enfin, c'est le même genre de technologie, exactement. Donc, support cartouche, vous êtes tous d'accord?
Ouais.
On va dire que si la console est portable, comme ce qui se dit, le support CD serait une aberration absolue.
Et puis, on va pas faire quelque chose comme ça non plus.
Si les jeux sont super HD, machin truc, ce serait comme avec les disquettes, il y en aurait plusieurs pour installer le jeu.
Ouais!
Ça serait drôle, ça.
Non, je pense pas, parce que je pense que les disques de la Wii U aujourd'hui ils font 25 gigas. Parce que c'est basiquement des Blu-ray, c'est des dérivés de Blu-ray. 25 gigas, ça suffit à contenir un jeu avec des textures haute définition sans trop de problèmes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me dis qu'une carte mémoire qui ferait jusqu'à 64 gigas, il y aurait largement de quoi faire.
Ouais, c'est la tête de Doom, donc c'est bon. Si on peut mettre Doom sur une console portable, ça me va.
Ouais, voilà, non, mais moi aussi ça me va bien. Alors Doom, lequel? Celui de quand j'étais petit ou celui de quand toi t'étais petit?
Alors celui quand t'étais petit, c'était plus 64 petit, mégabits.
Ben voilà. Donc c'est celui-là. Deuxième rumeur, support de la VR. Crédible, pas crédible.
Non.
Alors, est-ce que ce serait... Alors, la question, c'est ça. C'est est-ce que Nintendo a mis ce qu'il fallait pour supporter la VR au cas où ça décollerait, ce qui est une possibilité, ou est-ce que c'est une console qui va apporter la VR dans le salon? C'est le rêve de Cyrard depuis 15 ans. Depuis que je le connais,
il est là, genre,
Nintendo va faire la VR dans le salon.
Tu veux dire depuis le Virtual Boy?
Ouais, depuis le Virtual Boy. Mais Cyrard, il y croit toujours.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu bar, parce que Cyrard,
moi, je pense que... Moi, je pense que ce sera pas... que la console, techniquement, sera apte à le faire, mais que ce sera pas du tout un des trucs du lancement. Comme la PlayStation 4, en fait.
Tu penses que les mecs auraient prévu de dire si par hasard ça marche, on a un casque de VR qu'on peut sortir du chapeau là maintenant?
Non, ils n'ont pas de casque VR parce qu'ils en ont rien à foutre et ils pensent que la technologie n'est pas assez mûre, je pense. Mais de toute façon, actuellement, si une PS4 ou une Xbox One peut faire de la VR, une NX pourra aussi faire de la VR éventuellement. Quoi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut de particulier?
Bah, je sais pas, il faut de la puissance de feu déjà.
Oui, d'accord, mais je veux dire...
Il faut un casque relativement ergonomique, il faut une pièce dédiée,
il faut
des détecteurs de mouvement... Non, mais tu regardes l'équipement qu'il faut pour le HTC Vive, qui est peut-être l'expérience VR la plus complète, je crois, aujourd'hui.
Ou peut-être la seule convaincante.
Bah, c'est-à-dire que c'est la seule sur laquelle tu as à peu près toutes les technologies de ces 10 dernières années qui sont réunies à un endroit et dont les promesses ont l'air de tenir. J'ai jamais essayé moi-même, mais quand tu regardes ce qu'en disent les gens de manière générale, ils te disent oui, ça marche.
Ouais.
Le motion control fonctionne, le casque fonctionne, la définition est suffisamment élevée, les 120 FPS, voilà. C'est le truc qui juste marche. Ce qui est déjà pas mal. 1 200 € le prix d'entrée quand même. Hein.
Bah oui,
c'est le truc complet.
Ouais, et encore, hein, c'est que le casque.
Ah oui, t'as pas les motion controllers avec ça pour
1200? Attends, on parle du HTC Vive?
Du HTC Vive.
Ouais, non, t'as sûrement les motion controllers, mais t'as pas l'ordi.
Oui, après, il faut une bête de course à 2 000 € pour arriver à faire quoi que ce soit.
Voilà c'est ça. C'est... Moi, franchement, la VR, j'y crois pas, dans le sens... Bah, déjà, ils ont... On posé des questions, ils étaient pas très motivés.
C'est clairement un marché de niche et une technologie de luxe, quoi. Sauf si avoir un truc de qualité qui peut être cool, mais qui peut peut-être avoir ses limites. Je sais pas, moi, j'ai des problèmes... des problèmes relationnels avec la VR, donc je peux pas trop dire.
Je trouve déjà ça trop contraignant d'un point de vue matériel, parce qu'il faut un casque et compagnie. Mais pour l'instant, d'un point de vue grand public, on va dire, c'est pas très très intéressant. Il n'y a pas d'application de table.
Mais
c'est
voilà.
Cool hein, pour les fans de jeux vidéo qui veulent un truc très immersif, mais...
Oui.
Ah, c'est pas une technologie à vocation publique. Quoi.
Donc Nintendo, le support de la VR, a priori. C'est vrai que c'est... En plus, Nintendo, qui est toujours une compagnie qui a voulu rassembler les gens sur leur canapé, c'est sûr que si tout le monde est rassemblé avec un casque de VR sur la gueule, bon, t'as quand même l'air un peu con. Hein. Enfin, tu vois, c'est vachement rassembleur comme technologie, quoi. Il y a un mec qui est immergé dans un truc et qui est en train de triper à mort pendant que les autres se font chier sur le canap.
C'est le game show
asymétrique. Je suis en train d'imaginer les pubs Wii avec cette configuration.
C'est exactement ça. Votre famille est relou, mettez votre casque de VR et vivez autre chose.
Regardez un porn dans toute discrétion.
Alors, en toute discrétion, je suis pas sûr. Mais bon. Il y avait une rumeur pendant un moment sur le fait qu'il y aurait des sticks à retour de force, c'est-à-dire des sticks haptiques, donc éventuellement le stick pourrait résister. C'est-à-dire que si tu te cognes contre un mur ou un truc comme ça, le stick pourrait résister, t'empêcher d'aller à gauche, d'aller à droite ou d'avancer. Est-ce que j'ai jamais vu de technologie de ce genre-là à part les volants à retour de force, et on peut les casser très facilement, les volants à retour de force. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas?
Bah, tu viens de le dire toi-même, c'est qu'elle s'appelle facilement, Nintendo s'adresse aux enfants, c'est non.
Non, déjà Nintendo s'adresse pas qu'aux enfants.
Pas qu'aux enfants, mais c'est quand même aussi une grosse partie du public. Enfants. Oui, comme moi.
Ouais, c'est une grosse partie du public. Enfin, ça fait partie de la cible, mais c'est pas.
Ils ont jamais fait.
C'est pas l'essentiel pour les consoles de salon, quoi.
Récemment, ils ont pas fait non plus de consoles ou de manettes fragiles. Ok, il y avait l'écran du gamepad, mais ça restait quand même solide pour un écran tactile.
Oui, oui, ça y a pas de problème, ouais. Ouais,
après, voilà, la 3DS dans sa version originale.
J'y crois pas spécialement non plus. Moi, ça me paraît un peu.
J'y crois pas. Enfin, je trouve que ça serait une techno super intéressante, mais pas non plus suffisamment overkill que pour dire YOLO, on le fait et on claque un petit peu de pognon là-dedans à chaque fois, quoi.
Ça doit coûter la blinde en plus.
Alors, je sais pas parce que je sais que. Je sais que Microsoft avait étudié les gâchettes à retour haptique, c'est-à-dire typiquement le truc qui t'empêchait de tirer ou t'empêchait, enfin voilà, tu vois, un machin à retour de force au sens véritable, c'est-à-dire le truc qui t'empêche d'enfoncer la gâchette dans certains cas ou qui résiste quand tu arrives à un certain point sur la gâchette. Ils l'ont pas intégré dans leur manette, je pense que c'est pas pour rien. Alors, soit la techno est pas prête, soit elle coûte trop cher.
Est-ce que ça a aussi un intérêt d'un point de vue ludique?
Ça pourrait l'avoir.
Un volant retour de force, ouais. Ça peut être pas mal. Ou comme là, dans les gâchettes, quand tu tires sur un FPS, ça peut être genre t'as plus de balles. Quand t'appuies, ça te réjecte le doigt, quoi. Mais pour un jeu chez Nintendo.
Mais moi je trouvais ça bizarre, en fait, c'est un truc très bête, hein, mais je trouvais ça bizarre que tu sais, quand t'appuies sur un truc qui se passe rien à l'écran, c'est une chose, mais qu'on t'empêche d'appuyer sur un bouton, je trouve ça toujours un peu curieux, moi, dans le principe. Après, je pense que ça augmente quand même assez considérablement le prix de la manette aussi, parce que t'imagines que sur chaque bouton, chaque stick, chaque machin, t'as un moteur dans chaque direction qui permet d'apporter de la résistance.
Ouais, et sachant que c'est aussi sur des sticks qui sont pas très gros, pour que ce soit solide en plus. Voilà, tu vois, sur un joystick ou un retour de force ou un volant, clairement, tu pouvais faire le bras de fer avec, mais...
Surtout qu'on est déjà à une époque où les manettes coûtent déjà le prix d'un jeu, donc on vient de pas les augmenter, quoi.
On a eu une autre rumeur qui disait que l'écran serait intégré dans les... Enfin, que les contrôles seraient complètement intégrés dans l'écran, c'est-à-dire que c'est pas genre t'as des sticks séparés et t'as les gamepads au milieu, mais t'as carrément les sticks au milieu de l'image, les boutons, les machins, un peu façon écran tactile, mais... Enfin, je sais pas, cette rumeur-là, elle ressemblait à rien, d'ailleurs.
Mais c'est quoi? C'est genre façon iPad avec un stick virtuel ou le stick collé sur l'écran?
C'était genre le stick collé sur l'écran, les boutons qui seraient sur l'écran. Enfin, voilà, c'était un truc très bizarre où, finalement, la manette est un écran à elle seule.
Est-ce que c'est même faisable d'un point de vue technique?
Je ne sais pas. On a vu des trucs hallucinants au CES de Las Vegas cette année, notamment avec des écrans qui étaient pliables, avec des écrans sur lesquels on pouvait effectivement appuyer, où il y avait un vrai retour, notamment des écrans OLED sur lesquels quand t'appuies, ben, t'as un vrai retour, t'as un vrai machin, et qui sont souples. Je dis, techniquement, c'est peut-être faisable. Après, le coût me paraît, encore une fois, totalement délirant. Et l'intérêt me paraît extrêmement limité.
Ben, pareil, en fait.
Ça voudrait dire fabriquer des écrans spécifiques en termes de dimension. Ouais, les coûts, ils vont exploser, quoi.
Oui, moi, c'est juste pour les questions de coûts, ça me paraît pas gérable, mais bon. Donc les autres, ça vous fait ni chaud ni froid, en fait, le fait que...
Et comme pour le retour de force, d'un point de vue ludique, l'intérêt me paraît assez mineur, quoi.
Je trouve même que ça pourrait nuire... Je sais pas, moi j'ai besoin d'avoir une sensation physique au niveau des boutons, quoi.
On sait que t'aimes bien les sensations physiques.
Mais oui.
Rumeur suivante, les manettes détachables. Alors ça, c'est très récent, c'était... En réalité, la NX, c'est une espèce de console portable sur laquelle qui va ressembler à un gamepad, sauf que les deux morceaux du gamepad, celui de gauche et celui de droite, pourraient se détacher et devenir des manettes indépendantes. Alors, vous y croyez, vous y croyez pas?
C'est crédible, mais c'est vrai que le concept de manette détachable me semble un peu...
Ouais, je ne vois pas trop où ça pourrait être l'intérêt, hein, que ça
après,
pourrait apporter.
Est-ce que ces manettes, ça pourrait pas rappeler un peu les Wiimote? On pourrait avoir un genre avec la virtuelle console.
Voilà, mais moi typiquement je pensais à. Effectivement, t'as ton gamepad et t'as la partie de droite qui se détache et qui est une Wiimote qui a le motion control, le stick, les boutons, le machin, tout est dedans finalement et ça peut très bien servir de manette. Je pensais plus à ça. Mais enfin, vous, alors crédible, oui, parce que bon, les manettes détachables c'est pas pour ce que ça coûte. Maintenant, l'intérêt, déjà un peu plus. J'ai un peu plus compliqué, non?
Et ben, si c'est détachable, est-ce que, je sais pas, par exemple, je crois que j'avais vu des images là-dessus, tu pourrais rajouter des manettes, genre sur la droite, avec des. Comme un accessoire en fait. Genre t'as un jeu de pêche et t'as une ligne à remonter, adaptée carrément sur la branche de droite.
Ouais, et puis comme ça, au lieu de payer 50 euros la manette, tu vas payer 50 euros l'accessoire de merde pour avoir ta ligne de pêche sur le côté droit.
Exactement.
Mais ça, c'est du business model de qualité.
Et oui.
Mais ils seraient capables de le faire. Hein. Bah, là, du coup, ils attireraient de nouveau le public casu, comme a dit Ubisoft, parce que t'aurais une manette chelou sur laquelle tu peux mettre de la merde.
Moi, je me souviens de ce bon vieux volant, ou encore de ce bon vieux Wii Zapper, un bout de plastique vendu 20
ouais,
balles.
Le truc de la canne à pêche, il l'avait fait avec le Wii Bass Fishing.
Bass Fishing, quoi, ouais, je l'avais à la maison.
Alors c'est bien.
Bah c'était à mon père, mais c'était pas ce qu'il y a de plus fun, mais ça répondait pas trop mal quoi.
Mais ouais, en vrai, c'est juste un bout de plastique avec la Wiimote dedans, donc en fait c'est la Wiimote qui répond.
Oui, mais c'est plus pratique d'avoir le bout de plastique que de le faire à la main dans le vide. Mais oui, non, c'est bizarre comme phrase. Mais au final,
oui, effectivement, il y a un côté second degré dans cette phrase.
Désolé. Au final, moi je trouve que les manettes détachables c'est pas si con que ça, mais voilà, faut juste voir à quel prix ils les font, et surtout faut bien bosser sur le connectique, parce que si au final c'est des manettes qu'on détache tout le temps, dès qu'on arrive chez nous, qu'on les remet, qu'on les enlève, qu'on les remet, faut pas que ça nique trop non plus le port dans l'écran et le port de la manette. Parce que si on fait un truc trop fragile de ce côté-là, ça va se péter en pas longtemps et ça va niquer à la fois l'écran et la manette.
Autant la manette, tu peux la remplacer facilement, autant l'écran.
Autant l'écran.
Franchement, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, ce serait quoi, si je comprends bien, ce serait d'avoir d'un côté une sorte de console portable qui pourrait être une sorte de gamepad à la fois, mais dont tu pourrais enlever les extrémités et les combiner, par exemple, pour faire un contrôleur pro. C'est ça, en fait.
Ouais, c'est presque ça l'idée, je pense. C'est de dire, t'imagines, t'as ton gamepad, tu enlèves les deux morceaux qui sont à côté de l'écran, tu peux en donner un à quelqu'un, tu gardes l'autre, et puis bah, ça te fait une manette, et si tu combines les deux, bah, ça te fait une autre manette, et puis si tu les mets à l'envers, et voilà, et si tu mélanges tout, ça fait des chocs à pic.
Est-ce que tu penses que tu peux combiner plusieurs morceaux de manette, genre trois morceaux, tu vois?
Non, mais je rappelle que l'idée de la manette en deux morceaux, on avait eu sur Wii, on avait eu tout un tas de rumeurs comme quoi la manette serait en deux morceaux et qu'on pourrait combiner des trucs, ils avaient réussi à le faire au final, hein. T'avais un petit fil et pouf, t'avais ton Nunchuk, tu pouvais mettre, alors je sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres choses que le Nunchuk qu'on pouvait, si il y a le manette classique, je sais pas quoi, mais ils avaient fait un contrôleur en
du coup,
deux parties.
Tu utilises la manette classique.
Oui non mais, c'est juste pour dire, la manette en deux parties ou la manette avec des parties détachables, c'est pas une idée complètement inédite, ça existe déjà, ils l'ont fait.
Bah c'est le Wiimote Nunchuk quoi.
Oui voilà. Donc je sais pas si c'est... Je ne trouve pas ça plus con qu'autre chose, moi. Après, effectivement, il faut voir la connectique que ça va utiliser. Est-ce que ça va vraiment être pratique? Est-ce qu'on en aura vraiment besoin? Bon, ça me paraît un peu... La réflexion me paraît un peu lointaine, on va dire. Je passe à la suite. On avait eu un volant en forme de U, aussi. Une manette très 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 chelou, un volant en forme de U avec deux espèces d'énormes gâchettes. Crédible, pas crédible?
Non, je pense qu'ils vont garder un truc standard.
Et d'ailleurs, ça ressemble au truc de Link dans...
Tout à fait, ça ressemble au truc de Link dans Breath of the Wild.
Breath of the Wild. Et à un moment, quand il essaye de... Enfin, quand il fait une magie, en fait, je sais plus ce que c'est, il utilise un truc et ça donne l'impression de cette manette, en fait. Ça,
oui,
c'est exactement
la même forme.
Même,
c'est une espèce de forme démon,
la même forme.
De U, de demi-truc avec des boutons dessus. Ça, c'était un peu entre le PS Dildo et effectivement l'aimant, quoi.
D'ailleurs, c'est si rare hein, qu'il avait dit, je tiens à rendre à César.
De quoi, que ça ressemblait à un PS dildo?
Non, que quand il avait vu ce truc dans Breath of the Wild, ça lui avait fait penser à cette manette, justement.
Oui, ah oui, la manette Boomerang de la PS3, la première. Non, c'est ça?
La manette, il y a eu une rumeur comme quoi la manette de la NX serait une espèce de U qui ressemble effectivement à un aimant.
Ouais, non, mais moi ça me fait penser à un des prototypes de la manette de PS3 qui ressemblait à Boomerang.
Le Boomerang, ouais.
Le fameux Boomerang. Ouais.
Qui n'est finalement jamais sorti, et heureusement, parce que...
c'est pire que le DualShock, c'est quand même...
C'est quand même chaud patate. Hein.
Moi franchement, je pense qu'ils vont rester sur une manette classique, sauf si c'est l'écran intégré. Et dans ce cas-là, on aura peut-être un truc plus proche de la Wii U. Hein.
Alors, rumeur suivante, donc... Alors, c'est presque plus une rumeur, puisque maintenant, on sait que c'est une console portable hybride. L'idée, c'est, est-ce que c'est une console portable et une espèce de Chromecast qu'on brancherait sur la télé, par exemple, pour pouvoir le projeter sur la télé? Ça, c'est une des premières rumeurs qu'on a vues, que c'était simplement un truc qui il y aurait un module qui permettrait de projeter sur la télé. Il y en a une autre qui dit qu'il y aurait un vrai socle qui aurait de la puissance de calcul à l'intérieur et qui permettrait de rendre le jeu correctement sur la télé. Enfin, d'aider en gros la console à rendre le jeu correctement sur la télé, c'est-à-dire que ça reste une console portable. Quand tu joues en portable, tu joues avec une résolution réduite. Quand tu joues sur ta télé, tu joues avec une grande résolution. Donc il y a un truc qui permet, on va dire, d'agrandir l'image, de l'upscaler, de machin, de rajouter des détails, et ainsi de suite. Vous y croyez, vous y croyez pas. Alors c'est tout le concept du truc jusqu'à présent qu'on nous a vendu, ouais, entre guillemets, c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent.
Ouais, moi je suis entièrement... Enfin, je sais pas si on peut parler en fait d'hybride salon portable. En tout cas, sur le côté puissance de calcul et machin, là, à mon avis, potentiellement, il peut y avoir un truc, vu qu'on avait déjà parlé du brevet avec le cloud gaming et tout ça. Tout ça, c'est cohérent pour moi. Après, le côté hybride portable salon, j'ai aucune idée, mais vraiment aucune, de si techniquement ça peut tenir la route. Et si en termes de concept qui peut se vendre et tout ça, machin, tout ce que tu veux, si ça peut être intéressant. En tout cas, si la console se base uniquement sur ça, enfin, je veux dire, si la NX est une console puissante qui fait en même temps console portable et que derrière il n'y a rien d'autre, l'intérêt, l'intérêt pour moi, ça revient à avoir un upgrade technique de ta 3DS et de ta Wii U par exemple, sauf que c'est dans une seule machine. Pour voir ce que ça embarque comme contrôle après, si on a aussi Wiimote Nunchuk ou Gamepad,
l'idée de dire j'ai ma console portable, on va essayer de simplifier pour essayer de bien illustrer le truc, mais de te dire j'ai ma 3DS, donc j'ai Super Smash Bros pour 3DS, je le fais tourner avec le niveau de détail de Super Smash Bros pour 3DS qui est pas terrible. Je rentre chez moi, ma console portable se connecte à un module qui est sur la télé, et là tout d'un coup j'ai Super Smash Bros pour Wii U, donc 1080p 60fps, le truc qui défonce tout. Voilà, ça, tu trouves ça pas intéressant dans le principe? Parce que moi, je trouve que c'est pas mal en fait.
Si, alors, oui, c'est pas mal, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a toute une série de soft que Nintendo a sorti qui sont sur les deux machines, qui devraient déjà être comme ça, quoi. Tu vois, Mario Maker qui va sortir sur 3DS, je vois pas pourquoi je devrais le racheter. Tu vois?
Bah là, l'intérêt du truc, c'est que tu le rachèterais pas. Puisque tu achèterais le jeu une fois et tu l'aurais soit sous forme de console de salon, si t'es
Richard. Mais du coup, je suis complètement d'accord avec ça, surtout si le développement est facilité, unifié, et qu'il faut pas faire redévelopper deux fois que les devs doivent redévelopper deux fois le jeu. Mais du coup, pour moi, une update software peut suffire à ça. C'est-à-dire que si demain ils décident de mettre à jour les comptes eShop, machin truc et tout ça, ben j'ai mon Mario Maker Wii U et j'ai aussi mon Mario Maker 3DS à la fois. Il n'y a pas besoin de sortir une nouvelle console pour ça. Du coup, j'espère que derrière il y a encore autre chose. J'espère que ce sera là, parce que le cross-buy et tout ça, machin, je crois qu'on en a vraiment besoin. Mais j'espère qu'il y aura quand même autre chose derrière, quoi, tu vois.
D'ailleurs.
Rien que ça, en termes de marketing, c'est déjà énorme pour le grand public, quoi. Enfin, tu sais, t'as ta console portable et tu rentres chez toi. Enfin, tu peux continuer à jouer sur ton écran. Enfin, je veux dire, en termes de marketing, ça me paraît déjà énorme.
Ouais, moi ça me paraît pas mal non plus. J'imagine bien la pub. Le mec se balade, il joue à son jeu, il rentre chez lui, il projette sur la télé. Tout d'un coup, le module qui est sur la télé prend le relais et boum, ça y est, il y a des shaders de ouf, des machins dans tous les sens, tout d'un coup c'est du 1080p60, le mec il remet sa console en veille, il repart dans le métro, pouf, c'est une résolution plus petite, il y a un peu moins de détails, mais voilà, il joue au même jeu, il a pas interrompu sa partie, et c'est seamless, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, que tu sois chez toi, devant ta télé, ou juste devant ta console, ou dans ton plumard, le truc fonctionne de la même manière, et t'as la même partie finalement qui se continue en permanence. Sony avait quand même essayé de faire ça avec la PSP, enfin il y a quelques jeux entre la PSP et la PS3 qui avaient des sauvegardes communes ou des trucs comme ça qui permettaient justement de commencer un jeu sur la console de salon, de le continuer sur la portable et ainsi de suite.
Ouais, il y en a quelques-uns.
Alors avec un système qui devait être assez merdique. Hein.
C'est transfert de sauvegarde sur le cloud et tu les récupères de l'autre côté sur ta console. Donc en fait, si tu veux continuer, il fallait penser à télécharger ta sauvegarde avant de partir chez toi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas terrible du coup.
Mais moi, pour revenir sur cette histoire d'hybride salon portable, moi je pense que ça va déjà régler un énorme truc, un énorme problème, plus côté Nintendo. C'est la quantité de jeux qu'ils peuvent fournir sur une console. Sur la 3DS et la Wii U, moi j'avais remarqué que genre en 2013, très grosse année pour la 3DS, mais très mauvaise pour la Wii U, et 2014 c'était un petit peu l'inverse. Et peut-être qu'on évitera enfin ces années où les développeurs de Nintendo sortiront plus sur une console que sur l'autre. Et du coup, comme il n'y aura qu'une seule console, bah, tout sortira sur la même, donc il n'y aura plus de soucis. Genre laquelle je prends en premier et tout.
Oui, c'est vrai que ça permet aussi d'absorber le... Je vois ce que tu veux dire, d'absorber finalement, éviter de démultiplier la quantité de travail, parce que tu disais un petit peu Méduse, hein, c'est-à-dire, voilà, au lieu d'aller faire ton Super Mario Maker Wii U et ton Super Mario Maker 3DS 6 mois plus tard en te disant, merde, il y a peut-être moyen d'en vendre si je le fais sur 3DS, hein, tu sors le truc sur une machine, les gens qui finalement ne jouent que en mobilité, bah, ils ont leur console portable, ils ont le jeu. Le jour où ils achètent le module qui se branche sur la télé, bah, ils ont le même jeu qui continue de marcher, qui est plus pratique, qui est plus... Enfin voilà, qui marche peut-être un peu mieux, qui marche peut-être plus joli, mais voilà, ils n'ont rien à racheter finalement, et ils reprofitent du même jeu en haute définition, sans aucun problème.
Ouais, et puis...
je trouve ça intéressant, moi, dans le principe.
Ah non, franchement, moi, je pense que l'aspect hybride sera le plus gros... le plus gros point de vente de la console, si c'est bien le cas. Et personnellement, moi, ce serait un gros plus, parce que je me rends compte que j'ai quand même de moins en moins de temps de jouer chez moi. Et pouvoir me dire, je commence ma partie de Zelda ou de Fire Emblem sur ma télé, et je peux la continuer tranquillement dans le métro, bah, moi, l'idée me plaît assez. Parce que j'ai pas à me poser la question de savoir... Si je veux avoir le temps d'y jouer, je peux toujours jouer dans le métro ou ce genre de choses. Ça, c'est quand même plutôt cool.
Après, il faut quand même que les jeux soient adaptés à ce genre de choses-là.
Ouais, non, bah, après, personnellement, je pense pas qu'il y ait vraiment de format plus adapté au portable et compagnie. Mais vu que t'attends quasiment tous les jours des sauvegardes automatiques toutes les 5 minutes et compagnie, enfin, y a plus vraiment besoin d'adapter le jeu au format portable, quoi.
Moi, je suis pas forcément. Enfin, je suis partie des gens qui aiment pas trop s'interrompre quand au milieu de quelque chose. Donc, c'est vrai que si t'es obligé de reclapper, enfin de refermer ta console toutes les 30 secondes parce que.
Bah, justement, sur portable, ça t'arrive quand même assez souvent. Enfin, moi, c'est.
Oui, non, ça t'arrive tout le temps. C'est pour ça que c'est vachement pratique. Il y a une espèce de veille active qui fait que tu refermes le truc et voilà. Mais bon. Dans les autres rumeurs, on avait donc toutes les rumeurs concernant le cloud gaming. Alors, le cloud gaming, il y a beaucoup de manières de voir les choses. La première, c'était de dire on fait du calcul réparti, c'est-à-dire que toutes les NX du monde, un peu façon WeConnect 24, quand elles sont éteintes, en réalité, elles bossent pour les NX qui sont allumées. Donc elles font les calculs d'IA, les calculs de shader, les choses comme ça. Ça pourrait être intéressant, ça permettrait de, plutôt que d'aller faire du calcul dans un gros centre de données, pour aller calculer, je sais pas, l'IA des ennemis par exemple, et la redescendre sur la console de chaque joueur, finalement, plus il y a de consoles, plus t'as une espèce d'énorme grid computing qui permet d'aller faire du calcul réparti. Et tu as la deuxième version du cloud gaming, celle qui jusqu'à présent a été quand même un gros échec, qui est les trucs genre OnLive et autres, où c'est la console, elle est dans un data center, et tu as juste un petit boîtier chez toi qui reçoit l'image, qui envoie tes inputs au serveur et qui reçoit l'image. Alors, l'un comme l'autre, donc calcul réparti d'un côté, écran distant de l'autre, est-ce que l'une ou l'autre vous paraissent crédibles ou pas ?
Moi, j'ai un gros doute de la capacité de Nintendo à faire le parc de machines avec les calculs et compagnie.
Ah non, bah, moi je les vois bien faire. Moi
je les vois bien faire parce que quand tu regardes comment vous fonctionne le online sur Wii U, c'est assez proche de ça, hein, d'un point de vue réseau. En gros, ça fonctionne le online sur Wii U, quand tu regardes un peu comment fonctionne Mario Kart 8, ça fonctionne pratiquement comme du BitTorrent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un serveur qui met en relation les joueurs, donc tu as une espèce de seed en fait, que les joueurs récupèrent, donc tu vas aller te connecter à un serveur qui va te connecter à une partie aléatoire, et après, c'est que du peer-to-peer, 100%. Tu ne reping le serveur central, c'est-à-dire tu vas aller redonner des infos au serveur central que quand tu as fini la course, en gros.
Est-ce que c'était déjà pas le cas sur Wii, d'ailleurs ?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait ?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait, genre...
Pas tout à fait, genre t'étais quand même connecté en permanence au serveur...
De matchmaking.
De matchmaking. Là, tu es très peu connecté au serveur de matchmaking.
Ah, oui.
C'est peut-être le fonctionnement parfaitement normal et standard de jeux en ligne. La plupart du temps, t'es connecté au serveur de matchmaking et aux autres joueurs en même temps. Là, il y a vraiment assez peu de choses qui passent sur le matchmaking.
Et du coup, sur DS, par exemple, sur Mario Kart DS, c'était déjà du peer-to-peer, je crois.
Il me semble aussi que c'était du peer-to-peer, mais tu avais 2-3 particularités vis-à-vis du matchmaking aussi. Un peu comme sur Wii, c'est-à-dire t'avais quand même, tu transmettais en direct ta position aux autres joueurs et aux serveurs en même temps, qui devaient quand même faire des contrôles. Sur Wii U, là, je suis quasiment convaincu, enfin, de tout ce que j'ai fait comme capture de trame pour aller voir ce qui se passait, le serveur de matchmaking, c'est tu l'as au début, à la fin, et c'est à peu près tout.
Ah oui, c'est pas mal. Mais du coup, là, on pourrait imaginer que s'il y a du cloud computing qui se fait entre les machines, que finalement, il y ait comme des espèces de serveurs de matchmaking qui décident quelle console va se connecter à laquelle pour faire les calculs, et puis basta, quoi.
Tout à fait. Mais tu pourrais même imaginer, je sais pas, si tu vis en Europe et que tu joues le soir, bah, aux États-Unis, la plupart des NX sont éteintes, donc bah, en réalité, leur puissance de calcul serait mise à disposition, dans la mesure du raisonnable, pour aller faire, je sais pas, le calcul du parcours que tu vas faire sur ta bagnole.
C'est ça.
L'IA des ennemis, elle serait précalculée à un certain endroit, puis elle serait envoyée, les cache shaders, c'est précalculé. Il y aurait un véritable intérêt, parce que tu pourrais augmenter significativement la qualité des textures que tu affiches à l'écran, par exemple, sans avoir besoin d'avoir une puissance de calcul en local énorme.
Ouais.
Donc il y aurait un énorme truc à jouer. Sachant que pour le démarrage, Nintendo pourrait très bien dire « Je mets à disposition une espèce de ferme de NX qui est quelque part dans le monde ou à plusieurs endroits dans le monde qui ferait ces calculs-là. » Et puis dès qu'il y a suffisamment de NX dans le monde, on finit par l'éteindre au fur et à mesure, et puis après on l'arrête complètement et on dit « Voilà, le cloud, le nuage de NX est là, il fonctionne. » Et voilà. Alors après, il faut voir comment on gère la congestion, comment on gère le moment où il n'y a effectivement pas assez de NX pour faire les calculs. Est-ce que c'est pas gênant pour tout ce qui est consommation d'énergie ? Si t'as une NX allumée pour 4 éteintes, ça doit pouvoir se faire pour la répartition de calcul. S'il y a moins, ça va être plus compliqué. Enfin bref, ça pose des vraies questions. S'ils arrivent à faire ça, je pense que c'est une petite révolution pour le jeu vidéo, parce que honnêtement, ce seraient les premiers à faire ça en qui marche, quoi.
Ouais, c'est ça, quoi.
C'est ça qui fait s'il faut un peu la trouille. Nintendo prendre un risque pareil, je suis pas sûr.
Bah là oui, c'est quand même un gros risque. Hein.
Ouais, mais c'était un risque qui était quand même un peu calculé, quoi.
Bah évidemment, tu calcules tes risques, quoi qu'il arrive.
Les gens étaient quand même vachement intéressés par la Wii au final.
Oui, les gens étaient vachement intéressés par la Wii. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de comprendre en disant. Enfin, si t'es capable de comprendre.
C'était instinctif quand même. Enfin, tu vois le mec faire ça à la télé, bah voilà.
Pour le coup, la Wii était probablement la console la plus facile à expliquer de tous les temps.
Tu m'étonnes.
Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est vrai que le cloud gaming, ça peut être un argument de vente de Nintendo auprès des développeurs, c'est-à-dire de dire, vous n'avez plus de limite de puissance en local, vous faites ce que vous voulez. À partir de ce moment-là, sur une machine qui va coûter $150, tu auras des jeux qui seront plus beaux que sur la PS4 Pro. Ça, c'est un putain d'argument, clairement. Ouais, maintenant, bon, est-ce que les mecs arriveront vraiment à le faire ? Ce serait beau, hein, mais je suis pas sûr.
Faut encore que les joueurs laissent leur console disponible quand elle n'est pas utilisée.
Bah aujourd'hui, quand tu mets ta console en veille, on pourrait bien faire n'importe quoi dessus au final.
Personnellement, j'ai multiprise et j'éteins la console quand j'ai fini de jouer. Mais...
Oui, mais il y a quelques personnes comme ça, mais enfin, 99%
connard,
des...
EDF me fait toujours des petites surprises à la fin du mois.
99% des gens aujourd'hui, ils éteignent leur console avec leur manette en appuyant sur le bouton qui va
veille,
bien.
Hein.
Et en fait, elle est en veille. Ça pourrait très bien être de la veille active si c'était nécessaire. C'est ce que faisait la Wii, hein, déjà.
Et la Wii U aussi.
Et la Wii U aussi.
Ah ouais.
Bref, on a eu 2 ou 3 autres petites rumeurs, donc on va assez rapidement balayer. Beyond Good and Evil 2 en exclu sur NX. Vous y croyez, vous y croyez pas?
Oui. Celle-là, je l'entends depuis un moment. Et un mec sur Nintendo Man qui a des sources apparemment assez fiables nous aurait dit que ce serait le cas, mais enfin, j'ai envie d'y croire parce que j'ai envie d'avoir la suite de Bayou Good and Evil. Mais bon.
En exclu, je sais pas, mais en tout cas, il va arriver.
Sur NX, c'est possible. Hein.
Ouais, mais oui, la NX, qu'elle va arriver en même temps.
Connaissant Ubisoft, en exclu, on aura Just Dance.
En temporaire, exclu.
Mais pas en exclu, Just Dance avec le Kinect.
Ah non, il est plus en exclu depuis longtemps, Just Dance. Maintenant, tu peux jouer avec ton smartphone, il le sort sur toutes les consoles. Non,
justement, hein. Une autre rumeur, Just Dance 2017 sera exclusive NX.
Sauf si...
Non. Bah non, il sort sur Wii U.
Bah ouais, il sort.
Ah merde.
On m'a déjà sur 3DS.
Attention, autre rumeur extrêmement sérieuse, Call of Duty Black Ops 4 serait en exclusivité sur Wii U. Sur NX.
Impossible.
Ça, par contre... Watch Dogs 2 en exclu sur NX. Watch Dogs 2 qui va être un bon jeu.
Metal Gear Solid 6 en exclu sur NX.
Metal Gear Survive.
Metal Gear
Pachinko.
S'il te plaît.
Ah oui, ça vous oubliez celui-là.
Putain. Bon.
Est-ce qu'on peut parler de la dernière rumeur ?
Alors vas-y si tu l'as, parce que moi je l'ai pas. Hein.
Tu vois tous ces jeux console virtuelle que tu as acheté sur Wii U, 3DS,
Wii... Faudra que tu les rachètes. Voilà. C'est pas une rumeur.
Faudra remettre un petit peu 2-3-0.
Allez, tu mets très bien 3-0 pour avoir la conversion.
J'ai quand même un truc. Comment Nintendo, la NX a effectivement un concept secret révolutionnaire de ouf, comment ils ont réussi à le garder aussi longtemps s'ils savent vraiment ce qu'ils font? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne chez Nintendo qui sait comment ça marche. Ça fait un an et demi qu'ils nous montent un flanc, les mecs. Oh. Ils sont là en mode « Non, non, mais vous allez voir, c'est révolutionnaire. » Et derrière, ils sont là genre « Putain, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir, quoi ?»
Ouais, et si la NX, c'était tout le catalogue Nintendo disponible sur Steam?
Rachète Nintendo.
Ça fait mal, mais
t'aurais très mal. Fric.
Ou bien sur Xbox.
Sur le Windows Store.
Ça donnerait un intérêt à la Xbox Squad.
C'est n'importe quoi. C'est officiellement n'importe quoi. Bon, je sens qu'il est temps de faire une deuxième pause musicale, d'autant plus que mes oreilles commencent à sévèrement saigner. Et donc, on parlera de Metroid juste après, et notamment de pourquoi le truc se prend des tôles comme ça, et que pourquoi Nintendo fait de la merde avec Metroid. Bref, ce sera dans un tout petit peu plus de 3 minutes, le temps que je retrouve la playlist. Alors attendez, je vais meubler, tout va bien.
Alors, pour vous meubler, moi, je vais donner un petit indice pourquoi Metroid se prend des tôles. Bien donc, Metroid, l'héroïne est une femme, et elle n'est pas dans la cuisine. Je vous laisse y réfléchir pendant la pause musicale.
Voilà, on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et ça tombe bien, on a une musique de Metroid Prime 2 en fond, et on va parler de Metroid. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Metroid Prime Federation Force est sorti il y a 2 semaines. Voilà, le jeu est passé absolument totalement inaperçu partout.
En fait, quand on le voyait, ça se passait pas très bien pour lui.
Moi, j'y ai joué un petit peu, hein, pas beaucoup, mais j'y ai joué. À part le fait que ça n'a pas grand-chose à voir avec Metroid Prime, c'est dans l'univers de Metroid, mais voilà. C'est pas si dégueulasse comme ça, comme jeu, c'est juste un peu anecdotique, finalement. T'enlèves la skin Metroid, il reste pas grand-chose. C'est un jeu sympathique, mais sans plus. Par contre, je ne m'explique pas que ce jeu prenne une tôle pareille, sachant que le jeu précédent, Other M, s'était aussi bien fait lyncher. Est-ce que Nintendo a un problème avec Metroid ?
J'aurais plus dit c'est les fans qui ont un problème avec Metroid dans le cas de Federation Force vu la tollée qu'ils aient pris, mais bon.
Je sais pas, est-ce que ça vous paraît normal, vous, que... Enfin, Other M, moi, honnêtement, je trouvais que c'était un jeu honnête. C'était pas...
C'est pas mauvais. En fait, il y aurait pas eu de scénario, ça aurait été un bon jeu.
Ouais, voilà. En fait, le scénario était un peu en trou. Il aurait fallu faire une ablation du scénario, je suis assez d'accord.
Ça.
Mais dans l'absolu, c'était plutôt un bon jeu. C'était un bon jeu d'action, ça se passe bien. Voilà. Alors oui, c'est pas Metroid Prime. Mais bon, le problème, c'est que Metroid Prime, c'est probablement un des meilleurs jeux de sa génération. C'est très très compliqué d'arriver à faire...
C'est du Retro Studio.
C'est du Retro Studio. C'est vrai que Retro Studio, ils ont frappé très 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 fort à chaque fois.
Bon, après, Metroid Prime, c'est vraiment le premier qui est exceptionnel. Les deux autres sont déjà un peu plus... Ça, c'est un très bon jeu. Hein. Je vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais...
Non, Metroid Prime 2 est quand même un peu lourdingue. Hein.
Metroid Prime 2 a un côté assez lourdingue. Et, sincèrement, je pense que je préférais rejouer Over M qu'à Metroid Prime 2. Metroid Prime 3 était très bon, mais tu sentais qu'il commençait à tourner en rond.
Oui, mais sur le 2, il y a un multi, c'était pas mal.
Non, c'était de la merde.
Non, c'était, oui, c'était vraiment de la merde.
Mais non, bien bourré avec deux copains, ça passe.
Mais enfin, faudrait bourrer ta copine. Enfin.
Aussi.
Non, mais si tu veux, globalement, les mecs qui ont une PS Vita, c'est qu'ils savent ce qu'ils se sont dit en l'achetant. Hein. Je veux dire, bien bourré avec des potes, ça doit passer, quoi. Non, mais voilà, faut être un peu sérieux. Non, mais bon, Metroid Prime, je pense, c'était effectivement un jeu exceptionnel. Metroid Prime 2, finalement, dans la continuité, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'idées qui n'ont pas été intégrées dans Metroid Prime, qui ont finalement été intégrées dans Metroid Prime 2, donc... Il y a une espèce de logique. Le 3 est un très bon jeu qui marchait très bien. Et effectivement, comme le dit Antix, tu sentais par contre en termes d'environnement, de scénario, de pouvoir, de déroulement, de voilà, ça commençait un peu à tourner en rond. Pourquoi Other M s'est pris une tôle pareille ? Personnellement, je me l'explique pas. Je sais pas si vous avez une explication, en dehors du fait effectivement le scénario avait l'air... Enfin, c'était bidon. Enfin, on a vu largement pire, quand même.
En fait, disons que je crois que l'explication principale, c'est le... C'est le traitement du personnage de Samus qui est très gnangnan par moment, très, très pleurnicheuse, et qui n'a pas du tout été apprécié par une frange de fans qui s'était fait une idée du personnage. Après, il y a des scènes dans VRM qui sont quand même assez moyennes, notamment la scène avec Ridley, qui en fait tu peux pas comprendre si t'as pas lu le manga qui s'est sorti pour Zéro Mission sur GBA. Tu piges pas en fait pourquoi Samus se met à flipper alors que tu l'as déjà aussi buté 7 fois dans la série juste avant.
Oui, non, mais voilà, après le côté voilà, Ridley qui revient tous les deux épisodes, je comprends que ce soit un peu lourd.
Non, enfin, mais... je crois qu'il y avait surtout un problème au niveau 1. En plus du scénario qui a parfois ni queue ni tête, et t'as l'impression qu'il oublie des 3-4 arcs narratifs en cours de route. C'était le personnage de Samus qui posait problème.
Le seul truc en termes de gameplay que je trouvais lourd, c'était non, tu n'as pas le droit d'utiliser ce pouvoir parce que c'est pas bien.
Ouais, non, c'est ça.
Et puis tout d'un coup, le truc c'est bon, ok, maintenant que t'es bien dans la merde et que t'as plus que 2 de vie, je t'autorise à utiliser ton armure qui te protège du feu.
Ouais, voilà. Alors,
ta merde, je l'avais sur moi. Ok, ça c'était de la merde.
En plus, la variation, tu te l'as filé, genre t'étais déjà à la moitié du boss dans la zone de feu, c'était n'importe quoi.
Non, ça, je veux bien admettre que c'était de la merde. C'est-à-dire que c'était. Mal vu, mal dosé, s'il voulait t'interdire d'utiliser des trucs, il y aurait eu des moyens beaucoup plus fins de le faire, je pense. C'est vrai que Metroid Prime l'amenait plutôt bien, ça. C'est-à-dire qu'on te filait tout ton truc, on te piquait tout, il fallait que t'ailles tout rechercher.
Ouais, je pense qu'ils ont dû vouloir faire une variante de ce style de perte de pouvoir upgrade, mais qui au final marche moins parce que t'as pas ce plaisir de tuer le boss et de trouver la récompense à la fin. Finalement, on te la file parce que.
Est-ce que t'en as besoin.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu dommage. Mais donc, Other M se prend une tôle. Ok, très bien. Metroid Prime Federation Force, honnêtement, c'est plutôt un bon jeu. Je veux dire, ça marche relativement bien. Alors, les mécas, le système de méca est un peu lourd. C'est-à-dire, les déplacements sont un peu lourds, les trucs sont un peu lourds. Mais globalement, ça se passe pas si mal que ça. Et c'est aussi le premier Metroid qui est développé en interne chez Nintendo, si je dis pas de bêtises.
Non, c'est Next Level Game, les mecs de Luigi's Mansion.
Merde, je me suis chié dessus.
Ce qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis un petit peu déçu qu'ils aient accouché de ce jeu, en tout cas pour la franchise Metroid. C'est un très bon boulot sur Luigi's Mansion 2.
Ça, c'est clair.
Qui est à mes yeux meilleur que le premier d'ailleurs. Et j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent un essai sur un Metroid classique. J'espère qu'ils auront la possibilité de faire ça sur NX. Parce que Federation Force, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais jeu, j'ai pas testé et il me donne absolument pas envie. Mais le problème, je pense, la raison pour laquelle il y a autant de haine autour de ce jeu, c'est que c'est le premier Metroid qu'on a depuis 6 ans, et donc depuis Over M, et pas un épisode qui a fait l'unanimité, on va pas se mentir. Et du coup, les fans, franchement, on les comprend un petit peu, ont été déçus par... par le fait que ce soit un spin-off aussi,
alors, voilà,
aussi impersonnel. Quoi.
On est d'accord. Après, si, une fois qu'on assume le fait que c'est un spin-off, que c'est effectivement, c'est pas un vrai Metroid, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il avait juste appelé Federation Force featuring Metroid, ça se serait peut-être mieux passé.
Je pense, parce qu'ils avaient voulu vraiment pas l'associer à Metroid. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc complètement nouveau. Ça passait en fait.
Splatoon featuring Metroid.
En fait, je pense que ça aurait même pu être un Splatoon, mine de rien. Mais...
Bah, non, en termes de gameplay, c'est pas.
C'est un peu différent, bon, bref.
Non, mais l'idée, c'est je pense que les mecs ont eu l'idée de gameplay de effectivement, tu contrôles un mecha avec ses mouvements un petit peu lourds, un petit peu machin, et t'explores des espèces de labyrinthes. C'est à peu près ça le jeu. Hein. Ils se sont dit, bon, dans quel univers on peut le placer ? Mario. Ouais, Mario Mecha, ça va pas le faire. On a déjà Mario Maker.
Mario Mecha.
Il y a aussi Kirby robot machin truc.
Il y avait aussi voilà, il y avait aussi, ça pouvait pas être un Kirby. Donc qu'est-ce qui reste comme univers? Metroid. J'ai l'impression que Nintendo c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette impression.
Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs.
Ils le disent eux-mêmes. C'est on a un concept, on essaie de dire à quel univers ça peut coller une fois que le concept est fini.
Je crois que c'était déjà comme ça à l'époque de Ocarina of Time.
Ah, je sais qu'on l'a eu pour Captain Toad où les mecs avaient expliqué ça.
Ouais, Captain Toad, ils en ont clairement parlé. À la base, ça devait être un Zelda et c'est devenu un Toad.
À l'époque de Ocarina of Time, je crois qu'il y avait, je suis pas certain, mais j'ai lu récemment un truc qui expliquait pourquoi est-ce qu'il y avait des machins il y a des machins dans Ocarina of Time qui étaient prévus pour Zelda à la base, pour Mario à la base et qui ont basculé. Enfin, il y a toute une série de trucs comme ça, donc ce serait pas étonnant du tout que finalement, pour énormément de licences, ce soit comme ça. Quoi.
Mais alors, du coup, parce que là, bon, Metroid Prime, ça a fait l'unanimité, il n'y a pas de doute. Metroid Prime 2 et 3, on va dire que c'était une continuité. Je pense que le 3, effectivement, il était temps que les mecs arrêtent.
C'est pas après, un mauvais jeu du tout, mais il était temps que les mecs arrêtent. Entre les deux, on a eu Metroid Fusion,
qui était très bon.
Qui était bon d'ailleurs, qui était le premier Metroid à avoir un sérieux aussi important. Dans le déroulement du jeu, peut-être même beaucoup plus qu'Over M d'ailleurs.
C'est que Over M, le scénario est en fait pas intéressant.
C'était mieux traité.
Étonnamment, je suis d'accord avec Drosgar.
Dans Fusion.
Pour une fois, je trouve que dans Fusion c'était mieux traité parce que finalement c'est plus subtil.
Parfaitement d'accord. C'était pas aussi envahissant, on va dire.
C'est voilà, c'est effectivement moins envahissant et je reprends le point de Drosgar, c'est moins envahissant et c'est toi qui vas aller chercher le scénario finalement. Tu vas aller te connecter à l'ordinateur qui va te donner des informations et tu as les monologues de Samus quand elle est dans les ascenseurs, dans les machins, dans les trucs. Donc tu as une espèce de dualité dans laquelle tu as Samus qui reçoit les ordres d'un ordinateur, Samus qui se pose des questions dans son coin. T'as jamais
toi
les deux en même temps.
Aussi.
Toi qui te poses des questions aussi.
Parce qu'il y a toute une ambiance de mystère en fait autour de la station.
De la fédération, de la station.
Ce qu'il y a aussi dans Over M, mais en vraiment moins bien fait du coup. Et t'as tout le côté oppression avec le SAX qui peut popper n'importe quand quoi.
Voilà, mais je pense que Metroid Fusion était vraiment un excellent jeu. Son seul défaut entre guillemets, c'est qu'il était presque trop court. Très vite. Hein.
Bah en fait, c'est le cas de tous les Metroid 2D. D'ailleurs, j'allais parler de Zero Mission juste après, qui est pas beaucoup plus long et qui est un excellent Metroid. Je pense que c'est le meilleur Metroid pour commencer à l'heure actuelle, d'ailleurs.
Oui, parce que le Metroid original sur NES.
De toute façon, il est inclus dedans. Alors.
Oui, alors d'abord, il est inclus dedans, y compris dans la version eShop. Donc, si plutôt que de dépenser 5 euros pour Metroid et 7 euros, 8 euros, je sais plus combien coûte les jeux GBA pour Metroid Zero Mission, achetez juste Metroid Zero Mission, vous finissez le jeu une fois et vous avez Metroid original dedans. Et donc, vous avez, attention là, c'est Virtual Consoleception. Vous avez un émulateur NES dans un émulateur GBA, dans un émulateur. C'est chaud. C'est très très chaud.
C'est chaud, mais c'est cool.
Oui, c'est cool. Non, le premier Metroid, il est vraiment trop velu. Je veux dire, t'as pas de carte dans le jeu. T'es obligé soit de te dessiner ta carte, soit d'en avoir une imprimée ou quelque part. Enfin, c'est vraiment très compliqué d'arriver à se mettre à ça. Globalement, Zero Mission te permet de profiter de ce premier Metroid avec toute la modernité, tous les assets, tous les machins de Metroid Fusion. De toute façon, c'est par là qu'il faut commencer. Je pense qu'en plus, c'est une excellente introduction à la série parce que les mécanismes restent relativement simples. dans
ça, ça reste le départ de la saga d'un point de vue scénaristique.
Tout à fait, d'un point de vue scénario. Enfin, le scénario est pas ultra développé non plus dans le premier ou dans Zéro Mission, mais ça reste le point de départ, et puis surtout, ça te permet de comprendre tout un tas de choses. Je veux dire, la logique des armes, la logique des upgrades, la logique. Voilà, tous ces trucs-là.
Donc, voilà, il y a tous les classiques dans cet épisode-là, que tu reverras dans le suivant, quoi qu'il arrive.
C'est une espèce de mini-Metroid, ça marche très bien, ça dure pas très longtemps, ça coûte pas très cher. Mangez-en, il n'y a pas de souci. Donc, on a eu cette espèce de grande série, donc GBA, GameCube, un tout petit peu le début de la Wii, pouf, voilà, ça y est, Metroid s'est installé, tout le monde kiffe, le grand public est enfin là à dire « putain, c'est génial », alors que c'est vrai que Metroid était sur NES est quand même relativement confidentiel. Super Metroid l'est beaucoup moins, mais
Metroid,
le succès était assez tardif. Hein.
Et d'ailleurs, Metroid, c'est une série qui a surtout eu du succès aux USA.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Japonais ont continué de développer des épisodes, c'est grâce au succès aux États-Unis. Au Japon, c'est un titre c'est une série qui n'existe pas. Enfin, je vais pas dire qu'il n'existe pas, mais qui est très
très anecdotique.
Voilà, par exemple, Kirby a plus de succès ou Fire Emblem.
Il est sorti au Japon. Le premier était sorti sur Famicom Disk System, ce qui l'a peut-être pas beaucoup aidé non plus.
Ouais, c'est possible aussi.
Et effectivement, sur Super Nintendo, Super Metroid a très 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 bien marché aux États-Unis. Pas tant que ça en Europe, et au Japon, ça a été un succès modéré.
Aux USA, c'est quasiment considéré comme le meilleur jeu de la console. Hein. En même temps, c'est un très très bon jeu. Hein.
C'est un excellent jeu, il n'y a pas de doute. Je pense que Fusion lui est supérieur, personnellement.
Non, je préfère Super Metroid quand même.
Ah, je sais pas. Bref, donc tu t'avais deux jeux qui avaient bien établi la franchise. T'as Metroid Prime qui l'a fait littéralement exploser, parce que là, je pense qu'effectivement, tout le monde a joué à Metroid Prime.
C'était le plus gros
jeu de l'année 2005, c'était un des plus gros succès 2005, de la série en termes
2005,
de
2005,
2004,
2001. 2001 aux États-Unis, 2002 aux États-Unis et 2003 en Europe.
Je l'ai eu en 2003, moi.
2003 en Europe. J'ai eu 8 ans. 2002 aux États-Unis.
Ah, c'était cool. C'était bien d'avoir 8 ans.
C'était pas pour ton âge, Rosgar.
Ah non, je veux pas d'ailleurs.
En fait, t'étais européen. En mars, tu jouais à Metroid Prime et en mai, tu jouais à Zelda Wind Waker.
Ah putain, oui, c'est vrai.
Très belle année.
Très belle année, oui. Non, mais c'est bien d'avoir des gens qui ont beaucoup de mémoire comme ça. Ou qui ont Wikipédia sous la main.
2004 ou 2005, ce serait plus Prime Hunter.
C'est peut-être ça. Bah, qui était pas terrible, du coup, celui-là.
Bah, pour le coup, c'était un spin-off multijoueur de Metroid Prime.
Non, mais c'est surtout que le mode solo était très très curieux dans son déroulement et que ça marchait pas forcément très bien, je trouve.
Ah, j'y ai pas touché parce que je trouvais le maniement de la démo, oui, First Hunt, ouais. Assez imbuvable, et du coup ça m'a pas donné envie de jouer au jeu final. Quoi.
Le Prime Hunter ?
Ouais.
Ah, moi j'ai adoré, parce que c'est un peu par là que j'ai découvert, vu que je suis plus jeune que vous, forcément.
Oui, parce que t'es un jeune.
Bah oui, mais genre j'avais un copain qui avait sur DS, et du coup après il l'avait filé, et j'ai adoré, et après quand j'ai découvert sur GameCube, c'était encore mieux.
Ah bah oui, c'est sûr que sur GameCube,
non.
Ça...
J'ai pas découvert sur GameCube en fait, j'ai découvert avec le pack Trilogy sur Wii.
Ah mais c'est
oui,
très bien aussi.
C'est très bien aussi, je pense que c'est une des meilleures versions. Hein. Tu profites du 16:9, tu profites du 60 images par seconde en Europe qu'on n'avait pas. Oui, non.
Et on l'avait avec le 60 Hz.
Non, tu avais du 30 images par seconde parce que t'avais de l'entrelacé.
Ah oui, merde, autant pour moi.
Ah, Gouaké.
Oh merde, salaud. Bah, en plus, surtout, c'est la version qui est dispo à 20 balles sur l'eShop de la Wii U.
Oui,
donc,
en plus, qui est dispo à pas cher, et t'as les trois jeux dedans. Enfin, c'est vraiment sauter dessus. Hein.
T'as aucun intérêt à prendre une autre version, à part si tu veux vraiment jouer à l'original et avoir les trois trucs graphiques qu'ils ont tirés de la version Wii.
Ouais, mais... Enfin bon, on a tout ça. Non mais... On a tout ça, donc ça se passait bien. Tout d'un coup, Nintendo dit, Retro Studios, c'était de l'externalisation, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait la version Prime, mais finalement, c'est quand même un studio externe, malgré tout. On leur a laissé de la liberté de le faire, ils ont fait le boulot très bien. On prend la licence Metroid, parce qu'en fait, on s'en bat un peu les couilles, c'est un peu anecdotique pour nous, on la colle chez la Team Ninja, ça merde.
Non, alors, la légende voudrait que ce soit Yoshio Sakamoto, je sais plus si c'est exactement ça, Sakamoto, était allé voir lui-même la Team Ninja pour faire un Metroid avec beaucoup d'action, parce qu'il voulait un bon jeu d'action. Quoi.
Mais non, mais en tant que jeu d'action, ça marche pas si mal que ça. Hein. C'est juste qu'il y a vraiment des grosses stars dans le jeu qui sont. Je comprends que les gens les bâchaient, je trouve ça un peu sévère dans le principe, mais je comprends effectivement qu'il y ait des gens que ça a rebuté.
Bah, disons qu'il y a quand même des défauts dans le jeu que tu. Mais si quelqu'un l'avait testé sérieusement, il serait allé voir le réel, il aurait dit mais c'est de la merde ton idée quoi.
Oui non mais voilà, mais donc derrière Nintendo dit très bien, je vais le confier à Next Level Games, pareil, ça fait un four. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui peut sauver Metroid?
Metroid Prime Pinball.
Retro Studio.
Est-ce qu'il faut... Super Metroid Prime Pinball.
Est-ce qu'il faut que ça revienne chez Retro Studio? Est-ce qu'il faut que ça revienne en interne chez Nintendo? Est-ce qu'il faut que Nintendo fasse comme un peu comme avec F-Zero, c'est-à-dire qu'il commence à le reconsidérer un peu au sérieux?
Il faut... Il faut que tout aille chez Retro Studio, sauf Splatoon et Zelda. Tout le reste, on est chez
Retro Studio. Ils vont jamais sortir.
Et c'est bon. Ouais,
non, franchement, Retro, je pense que c'est pas les... Enfin... Un Metroid Prime, ouais, ce sera cool, mais du coup, t'auras un Metroid Prime. Je pense pas que t'auras quelque chose de beaucoup mieux. Excuse-moi, je pense qu'ils en ont marre en plus de Metroid. Franchement, Next Level Game, j'aimerais bien qu'ils fassent un essai sur un vrai Metroid.
Donc, pas un spin-off, basiquement, qui est quand même un jeu de mecha en équipe. Hein, on va être très clair, un jeu d'exploration en mecha en équipe, hein, voilà, c'est ça, Metroid Prime Federation Force. Mais toi, tu dis Next Level Games dans un vrai Metroid, au sens un Metroid 2D ou un Metroid 3D façon Other M un peu dirigiste ou un 2,5D
Moi,
j'avoue
que le style d'Other M m'a pas déplu. Hein. J'aurais bien aimé en fait avoir le jeu sur un déroulement plus classique de Metroid à base de d'exploration d'une planète. Avec des zones et compagnie, là, comment c'était géré, c'était pas très bon. Que ce soit en 2D ou en 3D, je voudrais un déroulement classique de la série avec de l'exploration, enfin des grandes zones plus ou moins ouvertes.
De l'exploration, du backtracking, découverte de pouvoir.
Pour moi, c'est une formule qui fonctionne toujours très très bien.
Axiom Verge dont nous avons parlé Yann ou pas, qui fonctionne super bien.
Il y a eu Shadow Complex sur les 360 qui apprenait le concept et qui était quand même plutôt bon. Même si visiblement c'était pas fou, hein, on va pas se mentir. Franchement, moi c'est un concept de progression au jeu vidéo qui me va toujours très très bien. Que je trouve toujours très agréable parce que la montée en puissance est quand même particulièrement jouissive. Moi j'aimerais juste revenir à cette base de tu cherches, tu explores, tu trouves des upgrades. Et tu débloques d'autres zones, hein, que je trouve fonctionne très très bien, même si le jeu doit faire 5 heures, quoi.
Mais surtout qu'il y a plein de possibilités, quoi. Je viens de faire, comme il a dit Mortal, je viens de faire Axiom Verge, j'ai fait aussi Guacamelee, je sais pas si vous...
Guacamelee, excellent dans le genre aussi. Hein.
Mais c'est juste énorme, quoi. Enfin, je veux dire, pourtant, tu vois, ces deux jeux, c'est un Metroidvania et c'est complètement différent, quoi.
C'est-à-dire que le concept est quand même... suffisamment simple pour que ça marche, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que finalement, il faut pas beaucoup de bonnes idées pour que ce style de progression soit à la fois super gratifiant pour le joueur et super intéressant.
Exactement. Ouais.
Après, c'est pas dans la logique actuelle de on veut faire des jeux qui sont pas des jeux. Un déroulement très jeu vidéo, on va pas se mentir. Moi je l'apprécie en fait. Et c'est finalement un style qui est. C'est le Metroid. Enfin, Metroid est une série assez unique. Avec un style assez unique, et Metroid Prime est encore plus unique dans le genre, parce que je crois qu'il n'y a pas de jeu équivalent dans la catégorie FPS. Et j'aimerais beaucoup qu'ils en refassent un classique, quoi. Ça fait pareil qu'on n'en a pas eu, quoi. En tout cas, pour Metroid en lui-même. Hein.
Bref, Metroid, finalement, va falloir attendre encore 6 ans pour avoir des nouvelles, à mon avis.
Sachant que dernière nouvelle, c'est qu'ils envisagent de faire un épisode, mais ils savent pas s'il sera en 2D, en 3D.
Y a eu énormément de rumeurs sur un remake de Metroid 2, qui est vrai que c'est le seul épisode de la série pour l'instant qui n'a pas eu de remake. Super Metroid non plus, mais Super Metroid est aujourd'hui parfaitement jouable.
Ah oui, il n'a pas vieilli.
Metroid 2, c'est pas le cas, t'as toujours pas de carte intégrée au jeu, t'as tout un tas d'éléments dans Metroid 2 qui sont très 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 lourdingues.
Alors, pendant un remake, mais il s'est fait bâcher.
Il y a un remake non officiel, mais qui s'est fait bâcher. J'allais dire,
pendant 48 heures, il a existé ce remake.
On le trouve encore. Hein.
Je pense qu'il me faudra 5 minutes pour le trouver sur internet.
Mais ça aurait été intéressant avec les assets de. Enfin, moi je pense qu'effectivement, façon Axiom Verge, finalement, tu reprends les assets de Metroid Zero. Fusion, de Metroid Zero Mission, tu les upscales un peu, tu corriges 2-3 trucs, tu recrées l'intégralité de Metroid 2. En améliorant les choses, évidemment, en rajoutant un peu des éléments qui faisaient que ça marchait. Mais c'est vrai que Super Metroid ne me paraît pas être le jeu le plus urgent à remaker parce qu'il marche encore parfaitement.
Ah oui, non, c'est clairement.
Parfaitement jouable aujourd'hui.
Et puis certains diront
c'est pas le cas du premier Metroid. Hein. Honnêtement, le premier Metroid est très 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 sec, à moins que tu le connaisses par cœur. C'est chaud patate.
Super Metroid, certains diront que Super Metroid est déjà un remake du premier.
Oui, les mauvaises langues.
Pas de gouffre.
C'est une suite.
C'est une sorte de suite.
C'est une version boost.
C'est à la fois. Ça me rappelle Evil Dead 2, c'est à la fois la suite et le remake d'Evil Dead. Ben, c'est un peu ça. C'est à la fois la suite et le remake du premier Metroid.
C'est comme Lilith Wars et Star Fox. Et Star Wing, pardon.
Tout à fait. Mais Star Fox, on a déjà vu qu'il n'y avait qu'un seul jeu et qu'ils avaient juste fait de la 3D meilleure à chaque fois.
C'est ça.
C'est presque ça.
Bref, le gameplay était moins bien.
Nous allons passer à la question de nos auditeurs. Alors, une seule question, parce que voilà. C'est Phoenix qui nous pose cette question.
Le Phoenix, l'attaque du Phoenix.
Et que
qui pensez-vous... mon frère.
Ça suffit. Que pensez-vous du jeu sur PC, trop cher ou trop cool? Alors, je vais laisser Zergy parler en premier. Donc, le jeu sur PC, croyant, pratiquant, les deux.
Les deux. En fait, alors le PC c'est cher, mais avec les offres Steam, y a moyen de s'en sortir au niveau du jeu pour pas cher.
D'accord. Donc toi, le loisir pas cher sur PC, ça te va. Ok. Très bien. Yanoupa, jeu sur PC, oui, non. Trop cher.
Non, oui, moi j'ai joué surtout sur World of Warcraft en fait, pendant.
Non, là, il n'avait pas de vie.
6, il devait l'apprendre.
Ouais, j'ai fait que ça dans.
Pendant 6-7 ans ?
Ouais, 6-7 ans, ouais.
Ah ouais, quand même,
t'as perdu 6
mois.
T'as perdu 7 ans de ta vie, c'est triste.
Non, je me suis éclaté, pour moi ça reste un super bon moment, mais. Et puis j'ai fait aussi des jeux indés, des petits jeux. Mais bon. C'est pas non plus. Je joue pas spécialement aux vrais jeux PC en fait. J'utilise mon PC pour des jeux qui avaient sur PS3, Xbox 360 quoi.
Non, en fait, ce qui sont des jeux PC, parce que finalement c'est plutôt la PS3 et la 360 qui font du jeu PC.
C'est vrai que c'est pas. Bon, mais dis-toi, je sais que tu joues beaucoup sur PC. Enfin, de plus en plus, parce que de toute façon, t'as une console Nintendo, t'as un PC, ça marche bien.
Ouais, oui c'est, ça, je le dis depuis.
Ouais, le combo gagnant depuis 2000 ans.
Ouais, c'est ça, depuis l'époque de la GameCube. Du GameCube.
C'est vrai que, voilà, donc, toi, ouais,
Et toujours aussi convaincu, puisque plus le temps avance et plus les jeux, plus les consoles non Nintendo sont finalement que des PC sans spécialement beaucoup d'originalité, sauf à la rigueur un petit peu chez Sony de temps en temps. Grosso modo, voilà. Donc, moi, le truc actuel, c'est. PC, console Nintendo, et éventuellement une console Sony en fin de vie.
Ouais, ce que je peux comprendre, ça peut permettre de rattraper 2-3 trucs, ouais. Effectivement.
Ouais, ouais.
Drosgar, PC, trop cher, trop cool, enfin voilà, je sais que t'as fait Deus Ex Human, Mankind Divided.
Mankind Divided.
Sur PC, c'était un choix volontaire, enfin t'as un gros PC ou...
Bah moi je suis un joueur PC convaincu et corrompu maintenant, depuis quelques années. Quelle malheureusement. Horreur. Mais j'en suis très fier et du coup j'en suis déjà à mon quatrième PC monté pour des potes. Parce que j'essaie tous de les convaincre les uns après les autres parce qu'ils voulaient acheter Xbox One, mais c'était une mauvaise idée.
Oh oui. Et non, mais t'as bien fait
au final. Mais oui, j'ai bien fait. Et au final j'arrive à leur montrer que. Parce que la Wii U ça les branche pas trop, donc autant leur faire prendre un PC quoi, ça vaut plus le coup. Et j'arrive à leur montrer qu'ils arrivent à rentrer dans leurs frais au niveau des jeux, au niveau de. Enfin, que c'est un investissement, mais sur le long terme, ça vaut le coup quand même. Ça reste cher, hein, c'est sûr, c'est. C'est un loisir un peu bourgeois et c'est un peu triste de le dire, mais ça vaut clairement le coup quand même.
D'accord. J'allais interroger Dojo Radio parce qu'il est juste là, mais du coup, c'est pas un vrai invité. Donc, Antix, jeu sur PC pour toi
Eh bien, écoutez, Mortal, le jeu sur PC pour moi était longtemps une passion, mais depuis que le solitaire et le démineur sont payants sur le Windows Store, je suis désolé à la tête. Alors, le jeu sur PC pour moi, dans un premier temps, ça a surtout été tout ce qui était émulateur.
Parce que j'avais comme beaucoup de gens. Hein.
Voilà, parce que j'avais pas eu de Super Nintendo. Et
Non, il avait raison.
J'étais jeune, moi aussi. Je suis né en 90, hein, je te rappelle. Mais du coup, ça m'a permis de tester pas mal de jeux Super Nintendo, quelques RPG sur PlayStation. Et après, le jeu en lui-même, ça dépend. Là, mon PC en ce moment, il tient pas trop la route. Donc, je change. Sachant que je joue principalement sur PC portable, mais du coup le jeu PC, moi c'est quelques jeux sur Steam, surtout des trucs indés, parce que ça tourne généralement bien quel que soit le PC, et que c'est souvent là où ils sont moins chers. Maintenant qu'ils ont de plus en plus de jeux japonais, je joue pas mal à titre de leader qui s'appelle Falcom, qui est surtout connu pour Is, un très bon jeu d'action.
Mais arrête, on sait très bien que tu fais des dating sims japonais.
Ouais, je joue à comment
des zéro gay.
Comment s'appelle le jeu avec où faut draguer des pigeons?
Oh putain,
à Tofu Boyfriend.
Voilà.
Oh non, putain, sérieusement.
2,50€ en promo.
Oh les gars.
Avec
les
le DLC.
Donc en fait, moi le jeu PC, c'est, je le considère comme le jeu console. Bah, disons que j'ai pas un PC de gamer, donc c'est souvent si les jeux actuels tournent dessus, c'est cool.
Puis si ça tourne pas, tant pis, quoi.
Enfin, si ça tourne pas et que je peux l'avoir sur console, je le prends sur console. Je suis pas un graphiste war et je prends en fait là où ça m'arrange le plus et c'est le moins cher. Avoir tendance à jouer au FPS sur PC.
Ce qui est une philosophie, hein, de dire je m'accroche là où ça coûte le moins cher, moi à la limite,
moi,
je peux parfaitement comprendre.
À moins que tu vois, sur console, il y ait un bug qui empêche vraiment le jeu d'être agréable à jouer. Tant que je peux y jouer, en fait, je m'en fiche un petit peu du support.
D'accord, bon bah voilà, Phoenix, j'espère que ça a répondu à ta question. Tout le monde a fait un petit peu le tour de ce qui jouait sur PC. Je maintiens que la philosophie de Méduse est la meilleure. Effectivement, avoir un PC correct, c'est-à-dire mettre un peu d'argent dedans, mais pas trop non plus, ça permet de jouer à peu près à tout dans des conditions qui sont généralement pas trop mal.
Mais quel que soit le sujet, ma philosophie est toujours la meilleure.
Merci Méduse pour cette modestie.
Je mange pas de viande quand même.
Nous allons terminer avec la citation du jour qui est de Cyrard. Cyrard, rabat-joie devant l'éternel.
Notre maître à tous.
Cyrard, j'ai toujours pensé que les planches à repasser étaient des planches de surf qui se sont arrêtées de poursuivre leurs rêves et qui se sont trouvées un vrai boulot.
Elle est géniale. Elle est
putain, pas ça.
On remercie Cyrard pour cette magnifique citation. On va se retrouver, j'ai pas chargé la dernière playlist parce que je suis un connard, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Regarde, voilà, je la charge, ça y est, c'est chargé. Tu vois comme elle est chargée là? Regarde, elle est juste là.
Elle est bien chargée.
Elle est bien chargée. Moi,
elle est chargée à bloc.
Elle est chargée à bloc. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. J'espère qu'on aura eu un X direct entre deux parce que là, on n'en peut plus.
Genre après-demain.
Genre, voilà, non, genre aujourd'hui. Genre
ah, maintenant. NX surprise.
Ça serait bien.
Ton Kiki, si tu nous écoutes, mon portable est allumé, il est là, t'as mon numéro, tu appelles, on le fait maintenant.
Et sur la plage.
On le fait maintenant. Sur la plage en octobre.
Au Dojobar.
Ah, il a pu l'avoir, attends.
On cumule tout.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même informé Nintendo France, Nintendo Europe et Nintendo America qu'on voudrait bien avoir un X direct en octobre, préférentiellement à la plage. Je pense qu'il y a un côté un peu troisième degré dedans. Et j'espère qu'ils ont apprécié.
Faut l'envoyer ça à Satoru.
Voilà, parce que c'est pas gentil, vrai. On s'est foutu de la gueule de Nintendo France aujourd'hui parce qu'ils voulaient dévioler Paper Mario.
Dévioler Paper Mario, quoi.
T'as pas suivi, bon, c'est pas grave. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous tout le monde. Ciao tout le monde.
Bye.
Ciao.
Salut.
Ciao.